לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver encore une fois au micro ce soir. Rachel Haddad en technique avec moi, Michael Auchelang. Comme chaque soir depuis le début de la guerre, nous vous retrouvons pour ce flash raccourci sur le 101.3 FM uniquement. Et puis plus tard, vers 21h25 pour le journal complet sur notre live Facebook. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 avril, 188e jour depuis le commencement de la guerre. Voici le résumé des principaux événements de ces dernières 24 heures. Alors depuis le 7 octobre, on déplore au moins 1200 civils victimes militaires et civiles des attaques du Hamas, avec environ 130 otages retenus dans la bande de Gaza. Du côté gazaoui, le ministère de la Santé dirigé par le Hamas signale 33 545 morts et 76 094 blessés dans la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a visité la base aérienne de Tel Nof aujourd'hui où il a rencontré des membres de l'escadron 133 qui pilotent des avions F-15. Le Premier ministre a reçu un rapport du commandant adjoint de la base et du commandant de l'escadron sur ses activités pendant la guerre. Le chef du commandement central de l'armée américaine, le général Michael Korilla, a atterri en Israël et a rencontré le chef d'état-major, le général de division Herzl Levy, dans le cadre de la coordination des préparatifs en vue d'une éventuelle attaque iranienne. Des responsables américains ont déclaré au Wall Street Journal qu'il existait des craintes que la plupart des otages israéliens détenus par le Hamas soient aujourd'hui morts. Le rapport intervient au milieu de négociations visant à obtenir un accord de libération des otages et une trêve. Certaines sources du Hamas indiquent qu'elles ne sont pas en mesure de fournir les 40 otages vivants parmi les personnes âgées, les femmes et les femmes soldates qu'exige Israël. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a présenté aux médias étrangers le projet d'étendre l'aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza. Les nouvelles mesures incluent le passage terrestre avec la Jordanie, par lequel nous prévoyons le passage de 50 camions d'aide aujourd'hui. C'est ce qu'a déclaré Hagari. Et il a poursuivi. Le sens de l'intégration des nouvelles mesures est que nous attendons à ce que la moyenne quotidienne des camions qui entrent à Gaza et contiennent de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des équipements de protection augmente progressivement de 350 par jour à environ 500. Daniel Hagari a de plus poursuivi dans une intervention, cette fois en hébreu, qu'il n'y avait aucun changement dans les instructions destinées aux civils, car Israël reste en état d'alerte face à une éventuelle attaque iranienne. Un responsable du bureau du Premier ministre a rencontré les chefs des villes proches de la frontière nord et a promis un investissement de 6,5 milliards de shekels, soit 1,7 milliard de dollars, pour réhabiliter les zones touchées par les attaques de missiles du Liban dans le cadre de la guerre contre le groupe terroriste du Hezbollah. L'armée israélienne a lancé entre aujourd'hui et hier une attaque terrestre au centre de la bande de Gaza près du camp de réfugiés de Nusayra. Après une série d'attaques inhabituelles dans le courant de la nuit dernière et le bombardement de Migdal al-Makbar, le porte-parole de l'armée a annoncé que la 162e division avait commencé une opération ciblée dans la zone. Des soldats de l'armée israélienne, du Shin Bet et des gardes frontières ont arrêté 6 hommes recherchés en Cisjordanie cette nuit dans la ville palestinienne d'El Azariya, adjacente à Amal et Adoumim. Les forces ont arrêté 2 hommes recherchés et confisqué de nombreuses armes, dont un fusil M16 et d'autres armes. La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé avoir prolongé de 2 jours jusqu'au 13 avril le retard des vols vers Téhéran pour des problèmes de sécurité. Hier, la compagnie a annoncé l'annulation du premier vol, déclarant que la décision avait été prise en raison, je cite, de la situation du Moyen-Orient. L'agence de presse iranienne Mehar a rapporté ce soir que l'espace aérien de Téhéran était fermé dû à des exercices militaires et a supprimé cette publication peu de temps après. Le rapport original, publié vers minuit, heure d'Israël, environ une heure après l'annonce de l'annulation des vols de Lufthansa. L'agence de presse, qui appartient à un organisme gouvernemental mais dont la définition est semi-officielle, a publié peu après 1h du matin un message selon lequel ce n'était pas elle qui avait publié ce rapport sur la fermeture de l'espace aérien. Du côté des Russes, on tempère. Le ministère russe des Affaires étrangères a émis un avertissement de voyage aux résidents du pays, les appelant à éviter de se rendre en Israël. Et il a également demandé à ce que l'Iran ne riposte pas à la frappe israélienne. C'était les principaux titres de cette journée. Vous étiez sur Cannes en français avec Rachel Haddad. Shalom de Jérusalem.
Buenas noches para todos, soy Eddie Junovich informando para Radio Reca en español y esta es la actualización informativa de las 9 de la noche. La amenaza de Irán a Israel. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de brigada Daniel Agari, comunicó que no hay cambios en las directivas del Comando del Frente Interior, pero que se debe mantener en alerta. El general de brigada Agari también sostuvo en una conferencia de prensa que estamos preparados y listos en defensa y ataque con nuestros socios estratégicos. En los últimos meses hemos mejorado nuestras capacidades ofensivas y sabremos actuar donde se nos necesita. Sin embargo, Agari señaló que la defensa nunca es hermética. Al mismo tiempo, la delegación iraní ante la ONU afirma que el Consejo de Seguridad debería haber condenado el ataque israelí al recinto de la embajada iraní en Damasco. Según la delegación, si el Consejo hubiera emitido una condena, el deber iraní de responder habría sido redundante. Del contrario, el primer ministro británico, Rishi Sunak, expresó, al igual que los Estados Unidos, Gran Bretaña apoya plenamente el derecho de Israel a defenderse contra Irán. Gran Bretaña también está tomando medidas para protegerse de las amenazas que plantea Irán. Mientras tanto, el Centro Sirio para los Derechos Humanos, un organismo de oposición con sede en Gran Bretaña, afirmó que Hezbollah y las milicias proiraníes han elevado su alerta en el Golán sirio y en los suburbios del sur de Damasco, incluidas la zona de Saida Zainab, que es un foco de actividad para elementos proiraníes. Según el informe, comenzaron a desplegarse e incluso cambiaron la ubicación de algunas de sus posiciones por temor a una reacción israelí, a la sombra de las amenazas de venganza de Irán por el ataque cercano a la embajada en Damasco. Protestas. Varios decenas de familiares de secuestrados y activistas por la liberación de los secuestrados bloquearon en estos momentos Derech Begin en Tel Aviv. Los participantes en la delegación exigen que los ministros del gabinete reunidos actualmente en la Kiryá liberen a los secuestrados. En Tel Aviv marchan cientos de manifestantes partidarios de la protesta de mujeres por el regreso de secuestrados, marchan desde Rothschild Boulevard hasta la Abima Square. Decenas de miembros de la organización Construyendo una Alternativa se manifestaron esta tarde exigiendo la liberación inmediata de los secuestrados. Al finalizar una marcha por las calles de Tel Aviv, realizaron una representación simulando a las mujeres secuestradas que se encuentran en avanzado embarazo. El objetivo de la actuación es recordar al gobierno y al mundo entero que 19 mujeres siguen bajo custodia de una organización terrorista. Mientras tanto, en la calle Gaza, en Jerusalén, más de 1,000 manifestantes de derecha se están reuniendo para pedir que se fortalezca la actividad militar en Gaza y que se ejerza una presión militar decidida sobre Hamás. Los manifestantes exigen actividad en el cruce de Rafah, ahora. Eliminación de financista de Hamás, la Fuerza de Defensa de Israel y el Shin Bet eliminaron a un operador financiero clave del ala militar de Hamás en Rafah, Nasser Jacob Haber Nasser. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, Daniel Agari, afirmó que en diciembre pasado el terrorista transfirió cientos de miles de dólares para las actividades militares de la organización. Declaraciones de Haniyeh. El jefe de la oficina política de Hamás, Ismail Haniyeh, negó en una entrevista con Reuters que sus hijos que murieron en un ataque israelí fueran combatientes de la organización. A una pregunta sobre el efecto del asesinato en las conversaciones para un alto al fuego y la liberación de los rehenes, Haniyeh respondió que los intereses del pueblo palestino están por encima de todo. la restauración de los asentamientos del sur. El alcalde de Sderot, Alon Davidi, acusó al gobierno de trabajar contrariamente a las promesas en contra de la restauración de los asentamientos afectados por la masacre del 7 de octubre. Este es el primer gobierno que hizo un traslado para sus residentes. 120.000 personas no estuvieron en casa durante 6 meses. También es el único gobierno que conozco que afirmó que quiere que haya un crecimiento en el Otef Asa y Sderot, y el domingo se va a tomar la decisión de que no habrá crecimiento, afirmó el alcalde de Sderot. Intento de atentado. En un puesto militar cercano a Al-Faur, en Judea, soldados arrestaron a una mujer palestina armada con un cuchillo, que admitió haber acudido al lugar para perpetrar un ataque. No hay víctimas, mientras que la terrorista fue entregada a las fuerzas de seguridad. Hasta aquí la información actualizada del día jueves. Nos reencontramos el día domingo a las 14 horas en Israel. Pueden vernos en YouTube a través de can.reca.official. Que tengan una noche agradable y tranquila. Shalom desde Jerusalén.
Kartule Novani Radio Kanreka, Mesum Shalani Halemevi, Mikrofon Tan Meriam Chikatule, Amem Shudovis Omis Asot Mutsdamer Vedre. Gakhortsinel deba tu ara Iranis Mukhara da vinch gvesuris da ubrunebt tu ara ara ki ara upro mzimet da gavanadgureb da ketes ganchadebas tavrobis metauri Binyamin Netanyahu da ramda dzabulda mzime periodchi 133 Israelis mokhalake isev Hamasis khelshia tqobashia Ռուսաստանի մինիստրական կաբինետի շեիքը տավդացվա իքնեմա ումաղլես տոնեսը, ճենքան իքնեմա ամերիկիս տավդացի ստրատեգիուլի պարտներըբի, ասերոն պանաշի տավդացի սկեմա ումաղլես տոնեմ դե գայսատա, գեներալի կորիլա ուկո Իսրելիշիա, Ամերիկის პრეზიდენტი აკეთებს განცხადებას, რომ დაიცავს ისრაელის სტრატეგიას და ისრაელთან ერთად გვერდიგვერდი ბრძოლებს. არავინ მისცევს და არავის მისცევს შესაძლებლობას შეურაცხყოს და განადგუროს ებრაელი ერის იდეა. სავარაუდოდ ასეთი მხრიდან არ არის მოსალოდნელი სამოქალაქო დაბომბვები. აკეთებენ განცხადებას, თუმცა ჯერ მსოფლიოში არ გამიგია ისეთი ბომბი შექმნილ იყოს ან რაკეტა, რომელსაც იმის ქონება გარჩიოს სამოქალაქო ან სამხედრო სტრატეგიის. სახიანეგები მოუწოდებს ისრაელის მოსახლეობას, რომ არ მიიღონ უგონო გადაწყვეტილება და პოზიცია, შეასრულონ ყველა აუცილებელი მოთხოვნა ზურგის სამსახურის პოზიციიდან. ამერიკის თხოვნით იგი მიმართავს ყველა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, გააფრთხილოს ირანი, არ ჩაედინოს შეცდომა, რომ ამერიკა ისრაელის გვერდშია და დაიცავს და იბრძოლებს მათთან ერთად, რაც უდიდეს სიას მოუტანს როგორც ირანის ტექნიკურ დონეს, ასევე მოსახლეობას. აუცილებელია ნათანიაუ არა პოლიტიკური, არამედ თავდაცვის საკითხები იფიქრო და იზრუნო შენს ქვეყანაზე. ზურგის სამსახურმა მოუწოდა ქალაქის მერებს დას ქვეყანაში ნებისმიერ პატარა დიდ ქალაქს, რომ მათი ქალაქის მოთხოვნილების შესაბამისად დაიცან მოსახლეობის პრიორიტეტები და შექმნან უფრო კეთილმოწყობილი გარემო. ძალმა განადგურა მახანეინო ცერეთი რაცუაში. ისრაელის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის პრეზიდენტი აბსოლუტური მხარდაჭერა არის და გამოცხადებულია, რომ ირანმა ნაწილობრივ არ არის გამორიცხული, რომ ირანმა ნაწილობრივ შეაჩეროს, თუმცა დღესდღეობიდან დაწყებული მთელი კვირა არის მძიმე საშიშროება, არის სერიოზული პრობლემები და იმედია, რომ ისრაელის მოსახლეობა ამას გონივრულად თავს დაახცევს. პრესამსახურის ხელმძღვანელი დანიელ ჰაგარი ზურგის სამსახურის ჯერჯერობით ბრძანებები და მოწოდებები არ ეცვლება. გენერალი კურილა უკვე ისრაელშია. ირანის მიზანია მუსულმანური რელიგია მოარხვიოს სრულყოფილად ახლო აღმოსავლეთს. იგი დახმარებას ითხოვს ხიზბალის, ლიბანის, ხუტების, ერაყის, სირიის თუმცა ჩვენ ვიბრძოლებთ ღაზაში და არ გაუწევთ არავის იმის პრობლემას, რომ ჩვენი მოსახლეობა არ დავაბრუნოთ. ერუშალაიმში გამოსვლები ისე და ომის გაგრძელების მოთხოვნა, ომი გაგრძელდეს გატაცებულთა განთავისუფლებისათვის. თქვენ მოგახსენებათ, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში, როდესაც განთავისუფლების პროცესიდან გამომდინარე, ისრაელში ერაღებულმა არმიამ ნაწილობრივ გამოიყვანა ჯარი, რატომღაც გავრცელდა ინფორმაცია, ომი დამთავრდა, მაგრამ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას, ყოველგვარი ეჭვების, ყოველგვარი ზედმეტი საუბრების გარეშე ვიმოქმედოთ ყველამ ერთად, გადავრჩით, გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ოჯახები და საერთოდ მთლიანად საკაცობრიო სიფხიზლე შემოვიტანოთ. გენერალი კურილა, როგორც უკვე გითხარით, დაეშვა ისრაელში და შეხვდება უსაფრთხოების მაღალ ჩინოსნებს. ირანის შესაძლოა თავდასხმის გაზრდილი მზადყოფნის ფონზე. ამერიკელი ოფიციალური პირი თუ მას თავს დაესხმებიან, ჩვენ არ გამოვრიცხავთ ერთობლივ და საპასუხო შეტევას ისრაელთან. არაბების საგანგებო საქმეთა მინისტრის სიტუაციე ის განმუხტვას ცდილობენ, თუ ეს უკვე დაგვიანებული არ არის. საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი ისრაელს უწევს მხარს და მოუწოდებს ირანს შეწყვიტოს საბრძოლო ფიქრიც კი. აი ასეთი იმედიანი განწყობილებით მინდა და გემშვიდობოთ ერუშალაიმიდან და ბედნიერი დღეები და მშვიდობა გისურვოთ. შალომ ერუშალაიმ.
ინჯე ერუშალაიმ, ყოდერ ერუშალაიმ, საათი ნოიმ შუნზე, მომბედი ხატატონ ფანჯ დაკეკა, მალუმოთ ხომ ერუსონიმ. გროი მალუმოთ, ჯან ხონოდარ სექსრიაზა დაგომბოდა ისოდას, ალაკაი ياكس واشو دحاشروز شوكي كوي بيختر اسرائيل در سيكتري از جانرو غزروند ايسودان مون چانين گور پروگرامو بدي بروي نس كارگني تشكيلات حماس و بهوز گاشني بگرافي گريفتو شيدون رو يوفت بو خوناشون اوردان ترمين روزو در كويرا رافت كوي بيختر اسرائيل و باكيلون رو درون جو فرسوند اين مسالا رو حل كردن اسن يعني بگرافي گريفتو شيدون رو اوزاد كردن אמו כאיסרוגס איסורסקי מולון גופת המתונים פשקלו מהאז תשקלות חמאס הולו ביגון תלבי ישראל רוסים לשודה הולי פיקרי חודרו עניך ביום נקר דה איסורס הוא יבחתרי ישראל דר רסיה דרום דה ג'אנגרו גזרום דה ניחס וזה מין סבב דר מין רוזו וכילוני ישראל בשטטו מוטי דמרקה פרווס קרדה דר אונג'ו בו خوشم سان با رهبرانی مملکت و پیلان را فاماندنی هستن برای که جنگ را در افیخ سر کردند. چندین بار پریزیدنت شتات متحد امریکا جو بایدن از اسرائیل طرف کرد که این سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که جنگ را باید در افیخ نگذراند که بسیار تری ساخنانی سکتری عزاز از این قدم ضرر میبینند. اما از یوم ترافی فرگو تیستو داست که اگر بگرابی گریفتش نگون ازود کردن شوان به مویان جنگ رو دبان بتیم ممکن که جنگ در رفیخ به خوات میته به تشکیلاتی خماس از این سبب اسرائیل گفت تیستو داست که مویان باید جنگ رو در رفیخ دبان دادنی هستیم گرچنده که اسکرهای اسرائیل از سفتری از بسیار برای اونها براندش باشند هم اما شروع گذشته سمرات خود به بسیار جایی استراتیگی تشکیلات حماس در رفیخ خجوم رسانده به ضرر رساندن به یک چند جایی استراتیگی تشکیلات حماس سانچون نارومی در شمال مملکت همون دوام داده استاد از امروز هم یک چند رکت ها پرانده شد و گفتم ایتان که از یک دو شانس هزار زیاد سخنان شمال مملکت همون از خونهاشان به دیگر شهرها گذشته در اونجا حیات دوام داده ایستادن چون مهمان خانه به دیگر طرف ها تخمین بایی کنیم هفته مایان این دی پسخ رو پیش باز میگیریم و حال خالتی از خونهاشان دوشتگیان حالا خلق شده است و مهمان خانه از اونا طلب کردن که باید برای اونا خوراک رساندن پول رو دیان که دولت به مهمون خانه ها پولی ایدی پیسخ رو نداده ایستاده است. ایران چندین بار اسرائیل را آگاه کرده ایستاده است که همچون ترسونده ایستاده است که مایان البته جوابش رو میدیم از سببی که به کنسول مایان که در لبنان بود در سوریه بود ضرر رسانده بودن. از این سبب قوی به اختیار اسرائیل تدگری خود را دیده ایستاده است 24 ساعت 7 روز هفته. ممکن گفتن که در ایران چندین بار معلوم کرده شد که آنها میخواین خجوم را رساندن ساعت 1:15، اما آن انیخ نیست از سبب که در 1:15 یک هفته پیش به یک جنرال ایران سربر رسانده شد و نبود گردید. همچنین گفته برام دا بودیم که از شمال ممکن که ایران یا که لبنان جنگ را سر کند، از این طرف همچون به فرزندهای رهبر تشکیلات حماس اسماعیل هنیه ضرر رسانده شد و سه فرزند خود را در جنگ چمچرای تموری گم کرد به خیر همچون سه نگرای خود. ایران در یک چند ساعت پیش معلوم کرد که اگر آن رفتار اسرائیل را بد کند مایان ممکن که خجوم نمیرسند دیگون ضرر به اسرائیل نمیرسند. آن در این بابت حالا یکون معلومات را نرسند. من خدا خاطر روز یک شما به شما با یک چند معلومات های مال نرسندیم. شلوم شلوم
Il est 21h. Vous êtes sur CAN, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
Le Flash Info de CAN en français, présenté par Rachel Haddad.
Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver une fois encore ce soir. Au micro avec vous, Rachel Haddad, en technique, Michael Hochelang. Alors, comme chaque soir, nous allons discuter des principaux titres de cette journée. Et puis ensuite, il y aura le magazine. L'invité de notre édition ce soir sera Ram Menachem. Ram Menachem que nous allons apprendre à connaître puisqu'il va être avec nous sur 5 semaines. Pour développer un podcast sur la masculinité israélienne, Mexplaining. Donc, avant cela, voyons les principaux événements de ces dernières 24 heures. Depuis le 7 octobre, on déplore au moins 1200 victimes civiles et militaires en Israël, avec environ 130 otages encore retenus dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, signale 33 545 morts et 67 094 blessés dans la bande de Gaza. Il est évidemment impossible de vérifier ces chiffres puisqu'ils nous sont communiqués par le ministère de la Santé qui, comme je l'ai dit, est contrôlé par le Hamas. Le Premier ministre Netanyahou a visité la base aérienne de Tel Nof aujourd'hui, où il a rencontré les membres de l'escadron 133. Il a discuté avec eux des principaux événements de la guerre à Gaza, notamment de l'invasion du camp de Nusayrat. Le chef du commandement central de l'armée américaine, le général Michael Korila, a atterri en Israël et a rencontré le chef d'état-major, le général de division Herzi Halevi, dans le cadre de la coordination des préparatifs en vue d'une nouvelle attaque iranienne. Les deux hommes se sont rendus au stand de l'armée de l'air, ensuite en suivant les préparatifs offensifs de plusieurs niveaux d'Israël et des États-Unis afin de renforcer la coordination dans ces deux domaines. Demain, Kurila devrait se rencontrer le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Des nouvelles bien inquiétante et triste, des responsables américains ont déclaré au Wall Street Journal qu'il existait des craintes que la plupart des otages israéliens détenus par le Hamas soient déjà morts. Le rapport intervient au milieu des négociations visant à obtenir un accord de libération des otages et une trêve. Et certaines sources du Hamas indiquent qu'elles ne sont pas en mesure de fournir, que le Hamas n'est pas en mesure de fournir les 40 otages vivants parmi les personnes âgées, les femmes et les femmes soldats qu'exige Israël dans un premier temps de libération des otages. On estime qu'il y aurait 129 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre, qui sont encore détenus à ce jour à Gaza. L'armée israélienne a confirmé la mort de 34 personnes détenues par le Hamas en citant les renseignements et les conclusions obtenues par les troupes opérant à Gaza. Cependant, le rapport du Wall Street Journal indique que les responsables israéliens et américains estiment en privé que le nombre de décès pourrait être beaucoup plus élevé. Certaines estimations américaines indiquent que la plupart des otages seraient déjà morts. C'est ce que ces sources ont affirmé au journal proche des renseignements. Ils soulignent cependant que les informations américaines sur les otages sont limitées et dépendent en partie des renseignements israéliens eux-mêmes. Le rapport cite des responsables américains affirmant que certains des otages ont probablement été tués lors des frappes israéliennes sur Gaza, tandis que d'autres seraient morts de problèmes de santé, notamment des suites de blessures subies lors de leur capture. Le porte-parole de Tzahal, Daniel Hagari, a présenté aux médias étrangers un rapport en anglais visant le projet d'étendre l'aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza. Les nouvelles mesures incluraient le passage terrestre avec la Jordanie, par lequel nous prévoyons le passage de 50 camions d'aide aujourd'hui. Conformément à la décision du cabinet, nous avons travaillé avec des partenaires internationaux pour acheminer davantage d'aide par voie maritime depuis le port d'Ashdod, après quoi elle sera acheminée vers Gaza. Il a ajouté que le sens de l'intégration des nouvelles mesures est que nous nous attendons à ce que la moyenne quotidienne des camions qui entrent à Gaza et contiennent de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des équipements de protection augmente progressivement de 350 par jour à environ 500. Il a de plus publié une autre intervention, en hébreu cette fois, où il a parlé de la potentielle invasion ou attaque iranienne. Il a dit qu'il n'y aurait aucun changement dans les instructions destinées aux civils et qu'Israël restait en état d'alerte face à cette éventuelle attaque iranienne. Un responsable du bureau du Premier ministre a rencontré les chefs de villes proches de la frontière nord et a promis un investissement de 6,5 milliards de shekels, à savoir 1,7 milliard de dollars, pour établir les zones touchées par les attaques de missiles du Liban dans le cadre de la guerre contre le groupe terroriste du Hamas à Gaza. Dans le sud, l'armée israélienne a lancé une attaque terrestre au centre de la bande de Gaza, près du camp de réfugiés de Nusayrat. Après une série d'attaques inhabituelles dans le courant de la nuit dernière et le bombardement de Migdal al-Makbar, le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé que la 162e division avait commencé une opération ciblée dans la zone et avait noté que des avions de combat ont attaqué des dizaines d'infrastructures terroristes au-dessus et sous terre. Avant l'entrée des forces des avions de combat et des avions de l'armée de l'air, en coopération avec la 215e brigade, ont attaqué des dizaines d'infrastructures terroristes à bord de plusieurs avions. L'activité conjointe des forces de manœuvre et de l'armée de l'air a été menée selon les directives précises du renseignement. Des soldats de l'armée israélienne, du Shin Bet et des gardes frontières ont de plus arrêté 6 hommes recherchés en Cisjordanie cette nuit, dans la ville palestinienne d'El Azaria, qui est adjacente à Al-Mahalleh Adumim. Les forces ont arrêté 2 hommes recherchés et confisqué de nombreuses armes, dont un fusil M16 et encore d'autres munitions. Depuis le début de la guerre, environ 3700 personnes recherchées ont été arrêtées en Cisjordanie et environ 1600 seraient affiliées au Hamas. Alors, le sujet de l'Iran et de cette potentielle attaque. Il y a eu plusieurs développements autour de ce sujet. Alors tout d'abord, l'agence de presse iranienne Mehar a rapporté cette nuit que l'espace aérien de Téhéran a été fermé aux exercices pour cause d'exercices militaires et a supprimé la publication peu de temps après. Elle a publié ensuite vers 1h du matin un message selon lequel ce n'était pas elle qui avait publié le rapport sur la fermeture de l'espace aérien. Il est à noter que cette agence de presse appartient à un organisme gouvernemental, mais sa définition est semi-officielle. La compagnie aérienne allemande Lufthansa a, elle, depuis annoncé avoir prolongé de 2 jours jusqu'au 13 avril le retard des vols vers Téhéran pour des problèmes de sécurité. La compagnie a annoncé l'annulation du premier vol hier, déclarant que la décision avait été prise en raison de la situation, je cite, au Moyen-Orient. Le ministère russe des Affaires étrangères a émis un avertissement de voyage aux résidents russes, les appelant à éviter de se rendre en Israël, au Liban et dans les territoires de l'autorité palestinienne, sauf dans des cas extrêmement urgents. Le message indique également que les tensions continuent au Moyen-Orient et que le conflit israélo-palestinien, ainsi qu'à la frontière entre Israël et le Liban, conduisent à de l'instabilité. Les États-Unis et leurs alliés estiment que l'Iran va attaquer Israël dans les prochains jours en réponse à l'assassinat d'un officier supérieur des gardiens de la Révolution à Damas la semaine dernière. C'est ce qu'a rapporté hier Bloomberg des sources sécuritaires américaines et israéliennes. L'impératif pour l'Iran de riposter à l'attaque contre le complexe de son ambassade à Damas aurait pu être évité si le Conseil de sécurité de l'ONU avait condamné cette frappe, selon la mission de Téhéran auprès des Nations Unies. En effet, les Iraniens ont annoncé que si le Conseil de sécurité de l'ONU avait condamné l'acte d'agression répréhensible du régime sioniste contre nos locaux diplomatiques à Hamas et avait ensuite traduit ses auteurs en justice, l'impératif pour l'Iran de punir ce régime voyou aurait pu être évité. C'est ce qu'a écrit la mission iranienne sur X. Israël n'a évidemment pas commenté publiquement ce tweet. Nous allons recevoir ce soir Olivier Rafovitch, qui va nous donner son analyse sur les récents développements sécuritaires, aussi bien à Gaza que face à l'Iran. Olivier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Olivier, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre analyse sur ce qui se passe, ce qui va se passer avec l'Iran, nous faire un peu d'ordre également dans les événements de ces dernières 24 heures?
Bon, d'abord, ce n'était pas la fois que l'Iran attaque des pays dans la région via des proxys, via des groupes terroristes qui sont sous sa coupe, comme les Houthis, comme le Hezbollah.
Et, comme d'aucuns diraient le Hamas aussi.
Bien sûr. Et là, on a la preuve que le régime des ayatollahs iraniens est un régime qui met en danger, qui déstabilise, qui veut déstabiliser toute la région, tout le Moyen-Orient, par ces menaces qui arrivent depuis maintenant plusieurs jours via le président iranien, via le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, via d'autres éléments en Iran. Et à ce niveau-là, ces menaces, elles sont prises au sérieux du côté israélien et également du côté de la communauté internationale. Il faut savoir que Israël a une capacité de défense extrêmement importante, ce qu'on appelle chez nous une capacité de défense sur plusieurs niveaux. On le voit avec les attaques depuis le début de la guerre, soit qu'elles proviennent du Hamas, soit qu'elles proviennent d'autres acteurs. Israël sait se défendre et sait détruire des éléments missiles ou autres qui proviennent de groupes d'armées terroristes ou de milices pro-iraniennes. Et donc, cette capacité, elle existe. Et à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de changement donné par les instructions du Pikoud Haaretz, c'est-à-dire du commandement de défense civile, à la population. Il faut rester, je dirais, au courant de ce qui se passe. Et s'il y a des changements, ils seront effectivement annoncés sur toutes les plateformes par le porte-parole de l'armée qui donnera des instructions au cas où il y a un changement. Mais à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de changement sur les instructions et sur le comportement à avoir pour la population israélienne. Maintenant, je veux dire aussi que beaucoup de pays ce soir ont pris position aux côtés d'Israël contre l'Iran, en demandant à l'Iran de ne pas faire ni de menace ni d'attaquer l'État d'Israël. Donc ça, ce sont des pressions politiques qui proviennent des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne, je crois. Et dans ce cadre-là, Israël mène une guerre contre le Hamas, mais il y a un pays, l'Iran, qui menace ce soir et qui, depuis maintenant plusieurs jours, et qui essaie de créer une pression à laquelle, évidemment, Israël fait face. Et par la voix du ministre de la Défense et du Premier ministre, entre autres, il a été dit clairement qu'Israël a à la fois la capacité de se protéger, de se défendre, mais également, s'il le faut, la capacité de frapper là où les ennemis, d'où les ennemis nous frappent.
Alors passons au front sud. Il y a eu des nouveautés dans les opérations à Gaza, puisque l'armée israélienne a lancé une attaque terrestre au centre de la bande de Gaza, près du camp de réfugiés de Nusayrat. Alors que se passe-t-il là-bas ?
Alors, ce qui est intéressant à signaler ici, c'est que la semaine dernière, comme vous vous souvenez, la division de commando 98 avait quitté la région de Khan Younes. Et il y avait comme une impression pour
que c'était pour aller à Rafah.
Non, absolument.
Non, mais ce qui se disait, c'est qu'on avait l'impression que les troupes avaient quitté Khan Younis pour se rendre à Rafah.
Ah, d'accord. En tout cas, ce qu'ils disaient, c'était que comme que Tzal quitte la bande de Gaza et qu'il ne reste plus de force, etc. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, une division, la division 162, est entrée en action dans la région, comme vous avez dit, de Nusayrat, où il y a au moins là-bas deux bataillons du Hamas, une région qui n'avait pas été visitée par les forces de Tzal sur le sol, en tout cas. Et c'est une opération extrêmement importante qui vient quelque part là aussi frapper le Hamas, là où il ne s'attendait pas. Il pensait peut-être que nous allions laisser Nusayrat comme ça. Et il y a là-bas deux bataillons du Hamas, et donc des combats ont lieu. Et la division 162 travaille dans cette région-là.
Et on parle de combien d'hommes sur place ?
On ne donne pas l'ombre de soldats de Sahel, mais il y a effectivement des forces de la division 162 dans la région de Nusayrat.
Très bien. Bah, je vous remercie en tout cas pour vos informations, Olivier, et nous nous retrouverons bientôt pour davantage d'informations sur la situation sécuritaire.
Merci beaucoup.
Au revoir. Nous allons donc passer à notre magazine avec l'invité du jour. Mais avant ça, une petite chanson, Si j'étais un homme.
Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que les peines pour les trop mauvais temps. Je t'emmènerai en voyage plus beau pays du monde, je ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme, et quand on est femme, on achète entendre ta voix. Je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voit et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis femme et quand on est femme, ces choses-là ne se font pas.
Littérature, société, culture, spectacle, le magazine de Canon Français.
Bonsoir Ram Menachem.
Bonsoir.
Bon, déjà, merci beaucoup d'être présent à notre magazine ce soir. Je vais commencer par dire que c'est la première fois que vous nous rejoignez, mais ça ne sera pas la dernière, puisque vous allez nous présenter une nouvelle mini-série qui va avoir lieu ici sur les ondes de Cannes en français. Alors, avant qu'on parle de ce projet extrêmement intéressant, est-ce que vous pouvez nous dire, nous parler un petit peu de vous, vous présenter pour que les auditeurs de Cannes en français apprennent à vous connaître?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Ram et je suis en train de finir mon licence à l'Université de Tel Aviv en culture française et en lettres. Et il y a un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, c'est le sujet de genre et surtout la masculinité. Et oui, je suis également un musicien et producteur de bandes originales de films. Et...
Oui, et donc, Ram Menachem, on peut dire que vous allez ici à Cannes un peu réunir vos deux amours, à savoir le cinéma et les études de genre, et plus particulièrement la masculinité, puisque nous allons parler pendant les cinq prochaines à venir de la masculinité israélienne dans un nouveau podcast de Cannes en français, M'expliquer la masculinité israélienne dans le cinéma. Alors, Ram Menachem, est-ce que vous pouvez un petit peu commencer déjà par nous parler qu'est-ce que c'est en fait la masculinité, parce qu'on a tous une idée plus ou moins vague. Je sais pas, moi je pense masculinité, je pense un homme avec un débardeur et des gros muscles, mais c'est pas forcément ça.
Oui, moi je pense que c'est aussi intéressant de, avant de parler qu'est-ce que c'est la masculinité, de poser la question pourquoi parler de la masculinité. Parce que la majorité des écrits théorétiques et littéraires, cinématographiques, sont trop longtemps été produits par des hommes et traitement des hommes. Mais la masculinité, c'est quelque chose comme un genre d'instinct. C'est quelque chose qui est un peu nouveau dans l'académie. Et la masculinité, c'est un genre. Et moi, je pense qu'une dialectique très, très intéressante, c'est que la masculinité, c'est d'un part, c'est un genre invisible. Il y a des recherches qui parlent...
Comme la, entre guillemets, race blanche est aussi invisible. C'est-à-dire, oui. On n'a pas trop d'études sur ce que c'est que l'expérience d'être blanc.
Oui, exactement. Et aussi avec des interviews avec des hommes, et les hommes... ont tendance de dire que genre, c'est quelque chose qui n'est pas très, très significant pour eux. C'est quelque chose un peu neutre. Ils ne voient pas le genre. Pour eux, c'est quelque chose un peu par défaut. Alors ça, c'est d'un part, c'est quelque chose de très neutre et naturel, presque invisible. Mais de l'autre côté, la masculinité, c'est quelque chose qu'il faut toujours, toujours prouver par des rituels, par de rites de passage. On peut voir ça dans le mouvement de la jeunesse. Et la masculinité, c'est quelque chose qui est toujours sous surveillance. Alors, il y a un peu le contradictoire.
C'est un paradoxe intéressant. Quelque chose de complètement transparent qu'on doit prouver constamment.
Oui, exactement.
Et comment vous l'expliquez?
Il y a Pierre Bourdieu parle de ça un peu dans la domination masculine dans son livre.
Pierre Bourdieu, je rappelle juste pour ceux qui connaîtraient pas forcément, sociologue, on pourrait dire un genre de père de la sociologie.
Et ils disent que la force de l'ordre masculin, c'est voir au fait qu'il passe toujours dans la neutralité et comme ça maintenir le pouvoir comme beaucoup d'autres choses qui, si on ne parle pas, on ne peut pas changer. Si c'est quelque chose d'invisible, alors c'est beaucoup plus difficile de déconstruire. Mmh.
Qu'est-ce que vous entendez par déconstruire? Parce que c'est un terme aussi extrêmement bourdieusien.
Oui. D'abord, c'est juste de voir plus clairement qu'il y a un genre, il y a des choses qui sont différentes. Il y a des tendances différentes. Et déconstruire, c'est un peu parler de... Oui, d'abord faire conscience pour moi. Et après qu'on a conscience de la problématique, on peut réfléchir à un peu changer. Ça, c'est un peu la destruction pour moi. Je veux pas une déconstruction totale. Je veux juste faire des choses invisibles un peu plus visibles et plus visibles.
C'est ça, en fait. Donc, déconstruire un concept, c'est ne pas l'accepter tel qu'il est, c'est le regarder d'un angle différent, essayer de regarder, en fait, sous le capot d'un concept. La masculinité, ce n'est pas seulement ce que l'on pense, et essayons de la déconstruire, la décomposer en de petits éléments qui la composent. Alors, oui. Avant qu'on parle donc du programme et des différents thèmes de la masculinité et surtout de la masculinité israélienne dont on va discuter, moi j'ai une petite question à vous poser qui a à voir avec l'actualité. Alors, nous sommes au summum de la menace de la guerre avec l'Iran depuis certains jours. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, la semaine dernière, un des hauts dirigeants des gardiens de la Révolution aurait été assassiné dans une frappe qui serait prétendument israélienne à Damas. L'Iran a réagi en disant qu'il ne laisserait pas une telle attaque se faire sans représailles. Et donc, aux États-Unis, en Israël, on est en état d'alerte maximale, puisqu'on attend donc une riposte iranienne. Est-ce que vous considérez que dans cette interaction, il y a des marques de la masculinité moderne ou pas, d'ailleurs?
Oui, bien sûr, il y a une très grande question que moi, je ne suis pas un expert de sécurité nationale et de géopolitique, mais c'est très pertinent parce que la géopolitique est souvent pas un sujet seulement qui ont lieu dans le département des sciences sociales, des sciences politiques. C'est aussi un domaine des humanités qui parle de relations entre hommes. Et ici, homme, c'est relation entre surtout des hommes. Et ben, moi, je pense que c'est pertinent, c'est très pertinent. Et il y a une très grande question, c'est quoi le but? Est-ce que le but est seulement sécurité nationale et géopolitique, ou c'est aussi une manière émotionnelle Oui, une réaction émotionnelle, une réaction qui, les résultats ne sont pas très clairs. Ça, c'est une question. Moi, je ne suis pas expert de détails de cette attaque, mais je pense que c'est toujours bien de demander est-ce qu'il y a un plan ou est-ce que c'est quelque chose qui est aussi émotionnel, qui est aussi une réaction qui va provoquer une contre-réaction.
Bah, c'est surtout que c'est une question qu'on n'a pas l'habitude de se poser parce qu'on ne pense pas au pays comme des entités capables d'émotion. Mais c'est vrai que ce que vous avez dit un petit peu plus tôt sur ce dont Moss parle sur la masculinité, que c'est quelque chose qu'on doit sans cesse prouver via des rituels. Vous parlez donc de rituels qui sont effectués à l'enfance, mais aussi plus tard, ça a l'air d'être cette riposte iranienne ou cette espèce de guerre de dissuasion, ça a l'air d'être un rituel de masculinité, c'est-à-dire de montrer que si on m'attaque, je vais forcément être forcée de réagir, même si cela peut avoir des conséquences néfastes sur moi. En l'occurrence, l'Iran a tout à perdre de rentrer dans une guerre ouverte avec Israël, et inversement.
Oui, oui, exactement. Et je pense que dans cette guerre, je le vois très, très dominant, le discours de honneur, le discours d'honneur qui n'est pas très un discours de géopolitique. Mais je vois, ça c'est mon avis personnel, mais moi je vois que le désir de retrouver le nord israélien, c'est quelque chose qui est très, très dominant dans le discours. Et c'est aussi parfois le désir de faire une réaction plus grande. Et ça, ce n'est pas un plan, c'est pas un programme, ce n'est pas un plan stratégique. Ça, on déjà parle de choses, on a déjà commencé de parler de choses plus humaines, plus...
D'intimidation, de tenir ses principes, de ne pas céder, etc. Alors, parlez-nous un petit peu, Ram Menachem, de notre superbe programme dans M'expliquer.
Oui, alors on a pensé un peu de faire, de parler de films, parce que cinéma c'est aussi toujours un plaisir de parler de films, mais c'est aussi très pertinent et intéressant de voir un peu cet ensemble de masculinité avec toutes les nuances et pas seulement dans le livre d'histoire et sociologie et genre. Et on va commencer dans le premier épisode de parler de le film Kuni Lemel, un film yiddish très très intéressant qui est basé sur une pièce de théâtre. Et ça, c'est aussi une monde entier de théâtre yiddish. Et moi, on va parler avec Hana Pauline Galay, qui est une chercheuse qui fait une recherche sur le culture yiddish comme la culture yiddish comme culture féminin. Et ça, c'est très... Oui, on parle de avant l'établissement d'Israël comme un pays. Et ça, c'est un peu plus la masculinité juive, et qui est un sujet très, très, très intéressant. Et dans le deuxième épisode, on va parler d'un film de début de zionisme et qui s'appelle Oualach Basadot. Il se promène
dans les champs.
Oui, il se promène dans le champ. Et ça, c'est un film qui nous montre vraiment le militarisme israélien et par rapport à la masculinité. Et on va parler avec le chercheur Uri Shin Cohen, qui parle un peu de cette dynamique dans l'armée. Et l'armée israélienne entre un peu le milice, la culture de milice, la culture qui réagit et qui fait pas de choses très, très organisées et stratégiques et sérieuses, mais un peu réagit comme un milice. Et par contre, la culture est militariste comme quelque chose de très très organisé, qui est par rapport au pays, de plan et ça c'est un peu une dynamique qui est toujours dans l'armée entre les choses qui est un peu dehors de cadre et le culture de cadre, et ça c'est une dynamique très 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 masculin. C'est la manière que la masculinité, c'est quelque chose parfois qui est très très, je sais pas comment on dit,
carré,
opaque.
Oui,
carré, très très carré, et qui t'as pas le pouvoir, vous n'avez pas de pouvoir de crier, d'exprimer les émotions, mais en même temps c'est il y a un peu le manière de masculinité qui fait des choses un peu dangereuses, qui fume, qui boit d'alcool, de whisky, faire le moto. Et ça, c'est une dynamique aussi intéressante. On peut le voir dans ces films. Et dans le troisième épisode, il y a Valse avec Bachir. Mm. Ça, c'est un film incroyable, un film d'animation. Mm. Et,
de Harry Fullman.
Oui. Qui vraiment montrait la génération qui réfléchit sur le prix de masculinité, le prix de la violence et le traumatisme de guerre et de PTSD. Et oui, et ça, c'est très, très pertinent. Même aujourd'hui, on peut poser des questions sur le traitement de traumatisme de guerre et des soldats qui est très, très... qui est devenu populaire dans la culture. On peut le voir avec le discours, le chanson de Idan Hamedi, le chanson de Récissime, mm-hmm. de Kaner. Mais est-ce que c'est vraiment acceptable aujourd'hui, le phénomène de PTSD? Est-ce que c'est acceptable
quand syndrome c'est de stress post-traumatique, je rappelle, PTSD.
Oh, ah oui. Mm-hmm. Oui, poser de la question... Est-ce que c'est vraiment acceptable, même quand c'est pas beau et romantique
comme dans des chansons, de la musique.
Oui, mmh. oui. Voilà, c'est une question difficile.
Donc Valse avec Bachir, qui, comme vous le dites, est un film formidable, qui parle justement du syndrome de stress post-traumatique via aussi le traitement de la mémoire et des souvenirs. Et comment ces derniers ressurgissent quand on s'y attend le moins. Et donc, Ramène Achem, dans le quatrième épisode, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va voir? De quoi on va parler?
Oui, Yossi B. Jagger, ça mm-hmm. c'est un film très très connu, qui est très très...
en avance sur son temps.
Révolutionnaire, mm-hmm. oui, c'est ça. Et oui, on va parler un peu de l'homosexualité dans le militarisme, la culture du militarisme en Israël. Sujet qui est aussi très très oui aujourd'hui c'est encore un peu un tabou mm-hmm. Et il y a le sociologue Danny Kaplan qui écrit de cette culture. Il fait des interviews avec des soldats qui réalisaient ses homosexualités pendant le service militaire, mm-hmm.
qui se sont rendus compte donc qu'ils étaient homosexuels.
Oui, et aussi il parle de cette manière, de cette trope de Réhout. Réhout, c'est le frérorité. Mm-hmm. Et oui, c'est une culture qui est très, très forte dans l'armée. Mais dans chaque groupe homosocial, ça veut dire groupe de même genre mm-hmm. et groupe de hommes qui est seulement des hommes. Et il y a cette manière de amitié qui est un peu
homoérotique,
oui,
sur les bords. Et donc le dernier épisode dont nous allons parler, ça va être un épisode lui qui va se focaliser sur la masculinité israélo-palestinienne. En l'occurrence, on va parler d'un film qui s'appelle La fièvre jaune de la mer Méditerranée. Un film qui est sorti il y a de ça 2 ans, qui se passe à Haïfa et qui suit les aventures d'un écrivain israélien d'identité palestinienne qui est complètement dépressif et déprimé et qui n'a qu'une envie, c'est de mourir. Et à travers donc ce film, on va parler justement de ce sentiment peut-être d'impotence ou de perte de pouvoir que certains hommes palestiniens ont ressenti en 1948 et continuent à ressentir aujourd'hui, cette peut-être incapacité à agir sur ce qui les entoure et sur leur avenir, le fait qu'ils se battent contre quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux. Et qu'est-ce que c'est que d'être un homme dans une société qui vous considère comme un petit peu moins que les autres, un petit peu moins homme avec un grand H et peut-être un petit peu moins homme avec un petit H. Donc ça sera ça, notre beau programme pour ce podcast de m'expliquer sur les masculinités en Israël. Ramen Achem, on a hâte.
Moi aussi.
Donc, on invite les auditeurs de Kanechat Esrei, voilà, tous les jeudis à 21h20, un épisode de masculinité, de m'expliquer. Et Ram, est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos auditeurs avant de nous quitter comme ça?
Voilà, si vous voulez connaître le fin mot de l'histoire par Ram Menachem, je vous encourage à vous connecter sur la plateforme de Kan Echat Esrei, Kan en français, pour découvrir notre podcast M'expliquer. Voilà, il est 21h59 et nous voilà à la fin de ce journal. Vous étiez avec Rachel Haddad sur Kan en français, en technique avec moi, Michael Hochlang. Shalom de Jérusalem.